Bonjour à tous, c'est Jean-Christophe Drouet. Le Practice RMC saison 4, la Dream Team est présente deux fois par semaine pour commenter l'actualité des plus grands tournois, des plus grands champions, mais pas que, notre envie aussi, vous aider à progresser dans votre golf avec nos partenaires U-Golf, Blue Green et Callaway. On vous conseille sur la technique, sur le matériel et nous répondons à toutes vos questions. Bon golf et bonne écoute.
Le Practice RMC, Jean-Christophe Drouet.
Bonjour à tous les amoureux de la petite balle blanche. Vous voulez participer à ce podcast, découvrir des contenus, avoir des conseils? Je vous donne rendez-vous sur le compte Instagram du Practice RMC. C'est déjà l'épisode 50 cette saison. Épisode 50 dans un peu moins d'un mois, la Ryder Cup, mais dans trois semaines. La Ryder Cup Junior, la moitié de l'équipe est composée de Français, de Françaises. C'est dire si notre formation va bien et c'est pour ça qu'on avait envie d'en parler aujourd'hui avec notre prof Ramucho Artola et notre éditorialiste Martin Coulon. Salut les amis.
Salut JC.
Salut bande de foufou.
Ah, ça va pas vous rajeunir ça, la Ryder Cup Junior?
Ah ben.
Vous allez voir les petits jeunes qui poussent derrière.
Ah oui, bah ils poussent depuis un bout de temps déjà. Moi j'ai arrêté. Hein. On est au 50e. On est au 50e numéro.
Oui, 50e numéro cette saison. Oui, que pour vrai. La saison 4, voilà. Évidemment. Vous allez sur l'application RMC, vous pouvez télécharger tous les numéros et vous régaler. Il y a quelques jours, on parlait forcément de cette Ryder Cup. Les grands, mais nous allons parler des plus jeunes tout de suite avec notre invité qualifié pour cette Ryder Cup Junior. Elle s'appelle Sarah Brentcheneff. Bonjour Sarah.
Bonjour tout le monde.
Nous sommes très heureux de te recevoir. Tu as 17 ans, Sarah, et tu es qualifiée pour la Ryder Cup Junior.
Non, j'ai 18 maintenant. 18. Ah.
18
j'ai pris de l'âge.
Oh là là, mais depuis
de
quand, Sarah?
Depuis le 11 juillet.
Ah oui, c'était cet été. D'accord, bah bon anniversaire. En retard, évidemment,
merci,
chère
merci,
Sarah.
Merci.
18 ans, la majorité, donc tu peux intervenir sur RMC, évidemment, facilement, tranquillement. Ta première émotion quand tu as vu que tu étais qualifiée pour la Junior Ryder Cup?
Bah, en vrai, j'étais pas trop surprise parce que bah, j'ai fait des beaux résultats en début de saison et puis même en milieu de saison. Je fais une saison hyper correcte cette année, donc je m'y attendais un peu. Et quand j'ai reçu l'appel de Stéphane Gallagher, ça m'a fait un peu bizarre.
Eh oui, Stéphane Gallagher qui est le capitaine de cette équipe de Ryder Cup. Un peu surprise, mais très heureux. Et justement, on va en apprendre un peu plus avec toi.
Le Practice RMC.
Alors, je le disais, le golf tricolore sera largement et dignement représenté à cette prochaine Junior Ryder Cup qui aura lieu à Bethpage du 23 au 25 septembre, donc en levée de rideau, en amont de la 45e Ryder Cup de l'histoire. 6 des 12 joueurs et joueuses retenus par le capitaine Stephen Gallagher sont issus de la formation française. Chez les garçons, il y a Hugo Le Goff, il y a Calix Alsace et il y a Oscar Couillot. Chez les femmes, donc Sarah Brentcheneff, évidemment, Alice Kong et Louise Uma Landgraft, une compétition réservée aux amateurs de 18 ans et moins. C'est pour cette raison, à tout juste 18 ans, que Sarah est qualifiée. Tu nous parlais tout là, il y a quelques instants du capitaine qui t'a appelé pour te dire que tu étais sélectionné. Comment ça se passe dans ces cas-là? Comment ça se passe pour les juniors?
Déjà, on a le coach qui nous appelle et puis on a eu un classement tout le long de l'année pour des épreuves qualificatives. Donc en fait, si on faisait top 3 mathématiques, il me semble qu'on était sélectionné automatiquement. Et les trois autres sont des wildcards chez les filles et chez les garçons. C'est à peu près le même système, il me semble. Je ne sais pas comment ça s'est passé pour eux. Et du coup, je pense qu'ils ont pris les 6 meilleurs au classement et on se retrouve toutes à la Junior Ryder dans moins d'un mois, je crois.
Et oui, dans moins d'un mois, ça va se passer à Bethpage, le théâtre, hein, évidemment, de la Ryder Cup. C'est dire si j'imagine la pression, en tout cas, l'envie va être grande pour représenter cette équipe européenne. Ça doit être particulier quand on a 18 ans comme ça. Martin Coulon.
Une petite précision, la Junior Ryder Cup, elle se joue sur deux parcours en fait. Elle se joue au Nassau Country Club, c'est dans la banlieue de New York pour les doubles. Et ça se jouera pour les simples sur le parcours de la Ryder Cup à Bethpage.
Le 23 et le 24, on joue au Nassau Country Club les pairs le matin et l'après-midi. Et on joue les singles sur le golf de Bethpage le matin.
Et précision aussi pour tous ceux qui nous écoutent et qui découvrent la Junior Ryder Cup, c'est une compétition mixte, vous l'avez bien compris, à l'inverse de la Ryder Cup classique, celle des grands.
Moi, je suis très curieux de savoir, Sarah, pour te connaître un petit peu, parce qu'on s'est côtoyé sur un tournoi du Letas que tu avais failli gagner il y a un an ou deux, je ne sais plus, à Terre Blanche. T'es pas du genre à te laisser impressionner par l'enjeu, mais quand même, là, quand on te dit que tu vas jouer à Best Page Black, qui est quand même un monstre de parcours avec le drapeau européen sur le cœur et avec les joueurs européens, puis Steven Gallagher en capitaine, il n'y a pas un moment où tu dis « Ouais, quand même, ça va être un peu chaud, les gars, quoi. »
Ça va être un peu stressant, je pense. La première journée va être un peu stressante, parce que c'est sûr que représenter le continent, enfin l'Europe tout court, en fait, c'est un peu spécial. Mais bon, on va dire que j'ai tillé sur des événements un peu plus gros. J'ai tillé à l'Open de France l'année dernière. Ça m'a fait aussi... J'ai vraiment eu la tremblote pendant 18 trous là-bas, par contre. Ça, c'était assez drôle. Et j'ai tillé à l'US Amateur, là, il y a un mois. C'était vraiment aussi très stressant. Donc, je pense qu'il faut que je le vive comme un événement normal, mais ça va être énorme. Ça va être cool. C'est bien le stress un peu, ça fait de mal.
Bien sûr, c'est bien le stress. Maintenant, il faut l'assumer, évidemment, et réaliser un magnifique tournoi pour une équipe européenne, sachant que tout au long de l'année, mais ça c'est le principe de la Ryder Cup, tu joues pour toi et tu joues pas dans une équipe. Et là, il faut représenter une équipe. Mais il y a d'autres Français, et tu nous en parleras, et des joueurs, joueuses que tu connais parfaitement. Donc tu seras un petit peu en famille, j'imagine. Ramut Chuartola.
Oui, Sarah, moi qui n'ai pas la chance de te connaître, quand je regarde ton parcours, tu joues à la fois chez les amateurs et tu as accès à des tournois professionnels. Et première question, je voulais savoir s'il y avait une grosse différence entre les deux. Et deuxième question, par rapport à ton parcours, j'ai cru comprendre que par rapport à ton évolution, classique, ce serait d'intégrer un cursus universitaire américain qu'effectivement, bizarrement, tu me diras pourquoi, tu n'as pas choisi. Donc, comme la majorité de joueuses...
Alors, tu sais quoi, je vais répondre à la deuxième question pour Sarah, mais elle va nous en dire un petit peu plus. Si elle a choisi, je pense, une faculté américaine, mais je crois qu'elle ne dit pas encore le nom de cette faculté américaine. Mais vas-y, Sarah, c'est à toi.
D'accord.
Ça reste un sujet, on va dire, les facs américaines... C'est sûr que j'y pense un peu tous les jours, mais je ne sais pas si c'est vraiment l'option que je veux prendre pour mon futur, parce que j'ai toujours rêvé de jouer avec les professionnels. Je sais que là, actuellement, j'ai complètement le niveau d'évoluer sur un circuit comme le LET ou le LETAS, même si je préférais évoluer sur le LET, je ne vous le cache pas trop. Et pour le moment, on va dire que ça reste un peu dans un coin de ma tête, l'université, mais ça serait un plan B et non un plan A actuellement.
Ah ok, c'est pas booké ça, mais parce que je crois savoir évidemment
c'est
que tu étais aux États-Unis,
c'est pas booké,
que tu y vas régulièrement.
Je suis en contact avec une fac, mais le nom il restera secret parce que l'agence avec qui je travaille ne veut pas révéler le nom, et c'est complètement normal.
Et sur la première question de Ramut Chau, de toute façon, on ne va pas t'embêter sur la fac. Hein, pour l'instant, tu n'as pas encore décidé, mais c'est vrai que forcément, tu t'intéresses à tout et tu essayes de voir où va te porter le vent et surtout où ton évolution sera la meilleure. Mais sur la différence entre les tournois amateurs et professionnels, là, tu as vu quelque chose ?
Oui, complètement. Le niveau amateur est vraiment très, très haut. Quand tu joues un US amateur, tu te rends compte que le niveau est vraiment haut. Contrairement aux circuits comme le LETAS, voire le LET, je pense que le niveau amateur mondial actuellement, quand on regarde le top 50, il est supérieur au niveau du LET. La preuve, parce que j'ai joué avec une amie il y a trois semaines, Mera Ortungen, qui a gagné la semaine dernière, hier, sur un tournoi du LET en Suède, qui est actuellement 9e mondial. Donc je pense que ça représente bien le niveau amateur mondial en ce moment.
Pour tous les auditeurs qui te découvrent, évidemment, tu es 38e joueuse mondiale amateur, meilleure joueuse française amateur. C'est dire si, évidemment, tu es une des espoirs de notre golf français. D'ailleurs, comment tu vis ça ? Comment tu vis ta progression ?
On va dire que c'est une progression normale. Je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça. Mais j'ai énormément travaillé avec mon coach, donc... Me voir actuellement à cette place-là au ranking mondial, ça ne m'étonne pas trop et j'espère descendre encore un peu plus bas sur les trois prochaines G-séances qui arrivent avant la fin de saison. J'aimerais bien intégrer un top 20.
Martin Coulon.
Ouais, il y a un truc, alors je pense que la grande majorité des auditeurs et auditrices de ce podcast s'en rendent compte, c'est que Sarah, c'est une fille qui est très souriante. Ça s'entend même quand elle rigole tout le temps, elle est très volubile, elle est très marrante, voilà. C'est quelqu'un d'extrêmement vivant. Par contre, attention, vous gourrez pas, pour l'avoir vue à l'œuvre sur le parcours, c'est pas pour rien qu'elle est 38e amateur mondiale et que chez les pros, elle fait pas tâche du tout. Il y a une espèce de dichotomie chez cette joueuse-là, chez cette personne-là, que j'aime beaucoup, moi. C'est ce côté très, très charmant, très volubile, très souriant, très... Très, ça rebondit quoi.
T'es en train de dire qu'elle est carnassière sur le parcours.
Ah ouais, ouais, clairement. Ouais. C'est, moi, pour moi, il y a deux Sarah, et c'est un peu la question que je voulais te poser, Sarah. C'est est-ce que tu te rends compte à quel point il y a deux personnages en toi. T'es presque Dr Jekyll et Mr Sarah sur le parcours quoi. C'est pas du tout la même personne que tu montes sur un terrain quoi.
Ouais, je suis complètement d'accord. On va dire qu'on a, je pense qu'on est deux dans ma tête. Je vais pas vous le cacher. Non, je suis une fille très détendue quand je suis en dehors des terrains de golf, très très chill, on va dire. Et quand je suis sur les terrains de golf, bah, je sais pourquoi je suis là, donc j'ai toujours envie de bien faire. C'est pour ça que je pense que des fois, je peux être un peu trop à fond, mais bon, c'est comme ça que je vis le golf et c'est comme ça que je prends du plaisir, on va dire.
Pour tous ceux qui nous écoutent, et notamment, c'est vrai qu'on a eu de jeunes golfeurs dans ce podcast, et notamment quelqu'un que l'on connaît très bien et que tu connais très bien, c'est Martin Kouvra qui est en train d'exploser. Alors, il est un petit peu plus vieux que toi, Sarah, mais on n'a pas souvent l'occasion d'avoir une joueuse qui va devenir professionnelle, on l'espère très rapidement. On n'a pas eu l'habitude d'avoir des joueuses. Et pour toutes les filles qui peuvent nous écouter, qui ont envie de faire ce sport, toi, ça t'est venu comment ?
Moi, le golf, c'est une longue histoire. En fait, mon père jouait avant que je naisse et il a arrêté parce qu'il a eu une blessure à l'épaule. Et j'avais 5 ans, je suis descendue au garage, j'ai vu des clubs. Et quand t'as 5 ans, tu penses pas que c'est des clubs de golf ou autre chose. Bah, j'ai pris les clubs et je pensais que c'était des marteaux géants. Et du coup, je tapais avec sur les murs et bah, papa s'en est rendu compte, quoi.
Ok, t'as cassé sa série ?
Non, j'ai pas cassé la série, mais j'ai cassé le mur pour le coup.
Ok.
Et de là, bah, papa, il m'a dit, bon, bah, je vais t'emmener au practice. Et bah, au début, c'était vraiment pas ce que j'aimais faire. Parce que moi, je suis une ancienne nageuse à haut niveau. J'ai fait tout ce qui était championnat de France, tout ça. Et donc, c'était vraiment ma passion numéro une, la natation. Et ça allait toujours un peu dans un coin de ma tête. Je regarde toujours les compétitions de natation. Mais maintenant, c'est un peu le golf qui a pris le dessus. Et je m'y suis mis vraiment à fond quand j'ai eu 11-12 ans, je pense.
Et à quel moment tu t'es dit, je vais peut-être en faire mon métier ?
Bah, on va dire que j'avais quelques facilités au chipping et putting. J'étais vraiment très, très douée. Et là, mon père, il m'a dit, bon, bah, ça serait cool que tu fasses une compétition. Mais je ne l'ai vraiment pas pris au sérieux. Je me suis dit, bon, je vais y aller, mais ça ne va rien donner. Je vais encore mal jouer. Et en fait, j'avais super bien joué, mais je ne m'étais pas rendu compte. Parce que je jouais tous les jours avec mon père et voilà, et ça s'est venu comme ça.
Et tu l'as gagné cette compétition ?
Je crois que j'ai gagné, ouais.
Ok, ouais, bah ça commence bien une carrière.
Gagné. Mais ouais, j'aimais pas faire les compétitions juniors, parce que j'aimais pas jouer avec les filles de mon âge, et ni plus petites. Du coup, je disais à mon père, papa, je veux jouer que les tournois adultes, et je faisais que des grands prix. Et en fait, j'ai dû faire 2-3 compétitions juniors, et j'ai tout de suite fait les grands prix adultes. Même si je finissais dernière, je préférais finir dernière que jouer avec les jeunes.
Ok, en tout cas, ça t'apprend déjà le haut niveau, et en tout cas, l'adversité, déjà, même en tant qu'amateur.
Exactement, mais même j'étais exactement pareil en natation, je préférais nager avec les filles qui faisaient les championnats d'Europe, tout ça, que nager avec les filles qui étaient à mon niveau.
Ok, tu as raison, Martin, elle a beaucoup de caractère, Sarah, à mon avis, il ne faut pas trop la chauffer sur un parcours de golf.
Ni dans une piscine, d'ailleurs.
Parce qu'elle peut vite mettre une raclée. Ramouchard, toi, là.
Non, ouais, ouais.
Alors, Sarah, tu nous donnes vraiment pas cette impression, mais est-ce que tu es confronté à des moments de doute ? Et si oui, par exemple, comment tu arrives à les surmonter ? Et lié à ça, une deuxième question, tu es très populaire, déjà à 18 ans, et comment est-ce que tu vis cette exposition quand même médiatique à laquelle tu dois faire face quand même depuis 2-3 ans quand même ?
Je sais pas trop, on va dire que c'est un peu venu rapidement cet effet médiatique, passer à la télé et tout ça, me voir sur Canal+, ça m'a fait un peu bizarre au début, mais on va dire que je suis assez humble, donc je prends tout ce qui arrive et puis je vis au jour le jour et je verrai bien de quoi est fait demain, donc voilà, j'essaye juste de prendre du plaisir et puis bah, c'est sûr que me voir dans les journaux, dans les magazines, à la télé, sur Instagram, ça me fait un peu bizarre, mais je me dis que bah, c'est comme ça et qu'il faut faire avec. Et voilà, quoi.
Ouais, et
ça me fait d'avancer
penser,
avec ça.
Ça me fait penser au discours de Martin Couvrat qu'il tenait dans ce podcast avec la tête bien faite. Et puis, une insouciance, évidemment, qui caractérise l'âge, mais une insouciance qui dit, bah voilà, on se lance là-dedans et on verra bien ce que ça donnera, même si, évidemment, il y a déjà cette popularité à gérer.
Et oui, et juste sur les moments de doute que tu peux avoir sur un parcours, les rares moments de doute que tu peux avoir sur un parcours, comment tu arrives à les gérer et à passer au-dessus?
On va dire que j'ai un fond de jeu, je suis une fille très très régulière, donc les moments de doute, ça m'arrive, mais c'est pas les mêmes moments de doute qu'une fille qui va driver et qui va en mettre de partout. Non, moi je suis une fille où je prends énormément de fairway, énormément de green, donc...
C'est parfait.
On va dire que je peux douter, ça m'arrive, mais c'est des petits doutes qui font que mon corps se réveille, et donc j'arrive à rattraper les situations. Parce que je suis une fille où des fois je peux être... Enfin, je suis une fille très flemmarde, mon coach le sait très bien. Et il y a des moments où je vais très mal commencer une partie et je vais me mettre dans le doute parce que je comprends pas ce qui arrive. Et en fait, c'est parce que je suis pas du tout réveillée. Et dès que je me mets à réveiller, bah là, la machine est partie, quoi. Mais il faut lancer une machine. Moi, je suis un bon petit diesel. Il faut que j'apprenne à être une essence. Donc, voilà.
Surtout que c'est l'avenir, voire électrique, pourquoi pas. Martin
Coulon. Non, pas électrique.
Ne soyons pas sectaires, quand même. C'était pas du tout la question de l'électrique ou pas de l'électrique. Moi, c'était plutôt la question de ce que ça représente pour toi, une Ryder Cup, ou même une Solheim Cup, puisque c'est le pendant féminin de la Ryder Cup, puisque tu vas en jouer une, même si c'est une junior. Bah, tu vas jouer une Ryder Cup quelque part. Qu'est-ce que ça représente pour toi?
Ça représente un énorme tournoi. Donc quand on a le niveau que j'ai actuellement, on se dit bon bah c'est dans la continuité de mes résultats, c'est complètement logique. Mais une personne qui rêve de faire ce tournoi, oui, bien évidemment, c'est un énorme tournoi. Et des fois, pendant cette semaine, je me suis dit putain, mais c'est ouf quand même, je suis arrivée à ce niveau-là, je vais jouer une junior rider, sûrement une Solheim Cup si je passe pro et que je fais des résultats. En fait, tout va très vite et on m'aurait dit il y a 2 ans que j'allais jouer ce tournoi-là, j'aurais dit non mais n'importe quoi, vous allez trop vite là.
Et pourtant c'est le cas. Donc, et tu vas réussir à la jouer. Est-ce que justement tu es fondu de golf au point de le regarder à la télé, de manger les tournois, de manger les Ryder Cup aussi, des garçons? Est-ce que tu as des références? Est-ce que tu regardes ça ou non? Toi t'aimes juste jouer?
Non, moi j'aime jouer. Hier j'ai essayé de regarder un peu la FedEx. J'ai regardé je pense 25 minutes top chrono et ça m'énervait parce que je voyais des coups, je me suis dit mais moi j'aurais pas fait ça, nani nanana. Enfin, en fait j'aime pas regarder le golf, j'aime bien le vivre mais je ne regarde pas le golf. Et quand je suis chez moi j'essaye vraiment de me couper du golf parce que c'est ce que je pratique tous les jours et je suis une fille où j'ai énormément besoin de faire le vide de temps en temps donc pas toucher mes clubs et ni regarder le golf, ça me fait pas de mal, quoi.
Alors, on va te préparer à Best Page dans quelques instants, parce que Ramucho Artola, qui est avec nous dans le podcast, a eu la chance d'aller à Best Page il y a quelques semaines durant ses vacances. Bon choix de vacances, d'ailleurs, New York. Bravo, mon cher Ramucho. On va en parler dans quelques instants, et puis j'aurai aussi un petit jeu pour toi à la fin de ce podcast pour continuer d'apprendre un petit peu qui tu es et quelle joueuse tu es. Mais on a bien compris, en tout cas, ton tempérament. Ramucho, comment c'était Best Page? Raconte-nous pourquoi tu es parti là-bas, parti en périple pour repérer les lieux.
Ben, comme j'étais dans le coin, c'est quand même à 50 minutes en train de New York, plus un Uber derrière pour vous amener sur le site. Je me dis, je ne peux pas passer à côté du site, du golf qui va accueillir la Ryder Cup. Donc ce serait pas, pour un golfeur, ce ne serait pas sérieux. Donc j'y suis allé, effectivement, quand on arrive... on arrive déjà sur une zone un peu désertique. Il y a une espèce de gare, un grand parking, et puis on se dit pas, mais où est Best Page là? J'ai regardé sur la par voiture, on est à 5 minutes. Effectivement, on est à 5 minutes de la gare, et effectivement, au bout de 2 km, même pas 2 km, on arrive sur un endroit magnifique avec de vieux arbres, des maisons, tout ça, et on arrive du coup sur le site. Et là, effectivement, on voit que ça bouge dans tous les sens. Mais ça bouge dans tous les sens parce qu'il y a beaucoup de joueurs, il y a beaucoup de joueurs au practice, il y a beaucoup de joueurs qui vont jouer, il y a beaucoup de joueurs qui ruinent le parcours, qui tchatchent entre eux. Donc, tu vois, c'est ça qui est fantastique. Ça a l'air naturel aux États-Unis, tu vois. Les mecs, ils arrivent du parcours, bien sapés, mais tu vois, avec le polo par-dessus. Enfin, tu vois, c'est vraiment inclus dans la société américaine. et les types se baladent, vont au bar, etc. Donc moi, j'ai suivi un peu ce cursus, personnellement, je suis allé dans le clubhouse, au Pro Shop, etc. Et inévitablement, j'ai vu ce qui se passait derrière le clubhouse, on voit ces squelettes immenses, parce que ce n'était pas encore recouvert de la tribune 18, mais c'est immense, c'est très haut, on voit des ouvriers qui s'affairent sur les tribunes, qui transfèrent des matériaux, etc. Donc il y a une effervescence, une ruche. On sent déjà que 5 semaines avant, c'est déjà une effervescence, pas sportive, mais magnifique, magnifiée par la Ryder Cup. Donc on voit ces tribunes, on imagine les joueurs. Ce qui est prêt, en fait, c'est c'est en bas du 18, c'est le podium où on va présenter les équipes. Ce qui est également prêt, c'est le village de tente des fans, des fan zones, je pense, des annonceurs, des invités, etc. Et là, du coup, on voit les trois départs, parce qu'il y a deux autres départs. On voit les joueurs démarrer tranquillement. Et je me suis dirigé vers le départ du 1. Il y a la cabane, il y a une petite cabane du starter avec marqué The Black, Bet's Page Black. Et le panneau, le magnifique panneau, le mythique panneau qui vous avertit que vous allez vous attaquer à un monstre. Et c'est vrai, hein, c'est vrai, il est marqué. Et là, effectivement, il y a beaucoup de joueurs qui prennent la pause devant. Et j'ai pu aller sur le départ du 1, un par 4 qui descend en léger dogleg droite. Et j'ai posé la question en arrivant si on pouvait marcher sur le parcours. Et j'ai su un refus parce que le parcours était fermé la veille, même aux joueurs. Et je leur dis, mais c'est quand même dans un mois, 5 semaines. Et ils m'ont répondu que, attendez, il y a la Ryder Cup, effectivement. Mais avant la Ryder Cup, il y a la venue des équipes américaines qui vont venir récupérer le parcours en 3 jours, la venue des équipes de l'équipe européenne. Donc, il faut que le parcours soit top. Et ils m'ont rajouté. Et n'oubliez pas qu'on accueille aussi la Ryder Cup Junior. Donc, il faut que le parcours soit prêt, on va dire 15 jours avant la date de la Ryder Cup.
Ok, t'es déjà parti à Best Page ou pas, Martin ?
Non, j'ai jamais eu cette chance. Et j'avoue que c'est un des parcours que j'aimerais bien... affronter. Tu sais que tu vas prendre une rouste, mais je sais pas, ça fait partie de ce genre de cathédrale extrêmement dure où tu te dis, bon, je vais prendre le million, mais c'est pas grave, j'y serai allé. C'est un peu comme Carnoustie, tu vois, ce genre de cathédrale-là.
Est-ce que tout le monde peut y jouer ?
Oui, c'est un golf public.
C'est un golf public.
Mais effectivement, on te préserve au départ du 1 avec ce panneau qui, effectivement, je pense. Ils t'interdisent pas, ils disent qu'il est quand même bien précisé. Qu'il est quand même destiné à de très bons joueurs.
Mais Best Place Black, il fait partie de ces parcours où tu as des gars et des filles, des joueurs et des joueuses qui, tous les matins à 4 du mat, sont sur le parcours, sont sur le parking du club pour espérer se faire tirer au sort pour jouer le parcours dans la journée. C'est un peu comme à Saint-Andrews dans des parcours publics comme ça.
Ouais.
Tu as une loterie, tu as une espèce d'effervescence apparemment des 4 du mat tous les jours.
Alors ça m'amène à une question pour Sarah, notre invitée. Comment ça se passe quand tu vas faire un grand tournoi comme ça? Parce que tu vois, j'ai la carte des scores sous les yeux parce que tu nous l'as ramené, Ramucho, merci beaucoup. Donc est-ce que tu repères les parcours, tu les regardes sur ton ordinateur? Comment ça se passe? Comment tu te prépares à affronter ça?
Non, moi je suis une fille où je fais le jour, donc en fait je vais prendre mes clubs et je vais aller sur le parcours et de là je vais prendre le carnet et je vais analyser la situation, mais je regarde pas trop à l'avance parce que je me mets un peu trop de pression et quand j'arrive j'ai l'impression de savoir déjà tout alors que pas du tout, en fait j'ai jamais marché sur le parcours, je le connais pas.
Tu préfères le découvrir comme ça au naturel?
Exactement, au naturel, ouais. Je vais vraiment m'appliquer sur le premier jour de la Roco où je vais vraiment regarder les zones à jouer et tout ça, et le deuxième jour je vais valider les zones que j'ai marquées lors de la première roco et voilà, et puis s'il y a des changements à faire je le ferai, mais on va dire que c'est vraiment la première roco qui est importante et on a vraiment besoin de 2 roco sur ce genre de tournoi.
Tu pars quand? Parce que je rappelle que ça va se disputer le 23, 24 et 25 septembre prochain. Tu pars quand pour y aller? Est-ce qu'il y a avant une réunion avec toute l'équipe pour, même si je le disais, il y a beaucoup de Français et tout
réunion.
Ça
On a une réunion, moi je sais que je pars le 19, ils m'ont booké mes vols, en fait on a rendez-vous à Londres, on part tous ensemble. Moi, je crois que j'ai mon vol à 17h40.
C'est précis.
Et j'arrive, ouais, exactement. Parce que je viens de répondre au mail, en fait, il y a moins d'une heure.
Ok.
Et on a tous rendez-vous à Londres et on part le 20 au matin à New York.
Ok, donc ça laisse peu de temps pour se préparer, peu de temps pour digérer le décalage horaire. Enfin, c'est pas cadeau tout ça.
Bon, après, il n'y a que 6 heures, donc ça va. On va dire qu'en 2 jours, c'est à peu près récupéré. Et puis. Généralement, nous, on prend des pilules pour le jet lag, pour se mettre à dormir rapidement.
Ok.
Donc, ça se gère. On va dire que le jet lag, c'est pas ce qui me fait peur.
Qu'est-ce qui te fait peur alors?
C'est de tirer à base page.
Mais y a
parce
un truc...
que j'ai des amis qui y sont allés jouer cet hiver, dont un qui fout très bien au golf, il m'a dit « Je pense que c'est le parcours le plus dur que j'ai joué. » Je lui ai dit « Non, mais c'est pas possible, tu peux pas me dire ça, il y a la Ryder Junior là-bas. » Mais bon, en vrai, ça va être drôle. C'est bien quand c'est dur.
Mais il y a un truc qui peut être rassurant, Sarah, tu me dis si je me gourre, c'est le fait d'arriver dans cette équipe européenne en n'étant pas du tout la seule Française du lot. Vous êtes 6 sur les 12, c'est la moitié de l'équipe européenne de Junior Ryder Cup et française. Ça va jouer positivement dans ce côté un peu, quelque part, rassurant.
Oui, après c'est cool parce qu'on se connaît tous, enfin à part Louise qui habite en Thaïlande, mais sinon moi je suis très très amie avec Alice, c'est une très bonne amie à moi, je l'ai souvent au téléphone et on communique beaucoup. Et les garçons, bah, ils se connaissent très bien entre eux, donc c'est plutôt cool. Et on a la chance de les voir assez souvent. Donc on va dire que les Perses sont un peu plus simples à faire du côté des Français que des étrangers, quoi.
Oui, c'est ça. Ça, c'est l'avantage, c'est que tu ne seras pas toute seule. Il y a 6 Français, 6 Françaises qui disputent cette Ryder Cup. Et ça, pour le coup, pour une première, je pense que ça peut être plutôt agréable. Ramucho, tu voulais nous dire un dernier mot sur Best Page?
Ah, oui, oui. Lors de mon passage du coup au Pro Shop, au moment de régler mes petits achats, je fais face au responsable du Pro Shop là, qui était en face de moi, et je lui dis: dites-moi là, si je venais à hurler un Go Europe, qu'est-ce que ça pourrait donner? Et il me regarde, il me fait waouh. Il me demande si j'étais sérieux. Non, mais je suis tout à fait capable. Mais voilà, qu'est-ce que ça pourrait donner? Il me fait: si vous souhaitez, écoutez-moi bien, si vous souhaitez quitter le site plus tôt que prévu, voir le pays, vous continuez comme ça, et grand bien vous fasse, mais je vous le déconseille fortement. Donc déjà là, tout est dit. Mais...
Est-ce qu'on va te préparer justement à ça, Sarah, à l'ambiance? Parce qu'on en parle depuis quelques mois maintenant, à Best Page est à New York, paraît-il qu'il y a des fans où c'est extrêmement compliqué de jouer au golf. Est-ce que justement vous avez quelques consignes autour de ça?
Absolument pas, on n'a toujours pas reçu de consignes du capitaine et du staff de l'équipe européenne, mais je pense qu'on va avoir un briefing là-dessus dès qu'on va arriver sur place. Mais on va dire qu'avec Alice, on est un peu habitués, on a joué la Junior Solheim Cup l'année dernière, il y avait une belle ambiance du côté des Américaines, voire pas trop fair play, mais on a fait avec, même si on a perdu... Okay. C'était pas à cause du public, c'était de notre faute.
Ok, te faire huer, ça ne te dérange pas?
Non.
Ok.
Non, bon, on est là. Et au contraire, ça donne une motivation supplémentaire de détruire l'adversaire.
Voilà. Et les Européens sont tenants du titre. Hein. Ils ont remporté largement l'édition 2023. C'était à Rome, évidemment. Mais sachez que les US, sinon, restaient sur 6 victoires de suite. Donc, c'est quand même un sacré défi qui se dresse devant cette équipe européenne. Pour terminer le Practice RMC, on va se détendre un peu.
Le Practice RMC Clubhouse.
Le Clubhouse avec notre invité Sarah. Question courte, réponse courte. J'aurais-vous de dire toute la vérité, rien que la vérité, Sarah?
Ok, rien que la vérité.
Rien que la vérité. Le meilleur score de ta vie?
À l'entraînement?
Où tu veux.
Je crois qu'en compétition c'est moins 7 et à l'entraînement c'est moins 13.
Ah oui, moins 13, c'est une sacrée claque. T'es où ça? Le moins 13?
Dans mon club
à
au
Lyon?
GCL.
Ok. Ouais. Ta distance au drive?
220 mètres. Avec la roule.
L'été, quand c'est bien dur, ok. Ouais. Ton club préféré?
Je dirais mon 58.
Pourquoi?
Parce que j'aime bien faire des lob shots et m'amuser autour des greens.
Ton club détesté maintenant?
Le bois 7, actuellement.
Ok, alors là, pourquoi?
Je comprends pas pourquoi toutes mes balles sortent à gauche avec ce bois en ce moment.
Ok, on va demander à Raphaël, ton entraîneur, tout va bien se passer.
Ouais, il va tout savoir.
Au pire, le bois 7, tu le prendras pas à Best Page. Ton parcours préféré maintenant?
Je dirais Bandon Dunes, l'US Amateur.
Ok, le parcours que tu rêves de faire?
Pebble Beach. Ah.
Pebble Beach. On a souvent Augusta, mais toi tu dis Pebble Beach, c'est un très bon choix également qui est sur la côte ouest. Peut-être ça peut donner une idée pour aller en fac, peut-être pas très loin de Pebble Beach. Ton idole au golf?
Tommy Fleetwood.
Ah, qui a gagné évidemment le Tour Championship, la FedEx Cup. Pourquoi Tommy?
Je suis amoureuse de son swing.
Ok, très bien. Ton plus gros craquage au golf maintenant?
Craquage? Oh là là. C'est dur ça.
T'as balancé un sac dans l'eau, t'as des clubs, ou un trou qui s'est mal passé?
Non, j'ai mis un coup de wedge dans mon sac et j'ai cassé le trépied.
Ok. Bon, c'était il y a combien de temps? Il y a longtemps?
C'était au mois de janvier.
Ah oui, c'était il n'y a pas si longtemps. Voilà, ça a augurait d'une belle saison. Et enfin, pour terminer, le plus beau coup de ta vie? Pour l'instant.
J'ai boité une sortie de bunker sur le Letas au Portugal de 30 mètres et je pense que c'était vraiment mon plus beau coup de ma vie.
Mais il en reste d'autres à venir, évidemment. Merci beaucoup, Sarah, d'avoir été avec nous dans le Practice RMC. C'était un véritable plaisir de te recevoir et on te souhaite tout le bonheur du monde pour et la suite de ta carrière, mais pour dans 3 semaines, la Junior Ryder Cup. Merci beaucoup, Sarah. À bientôt sur RMC.
Merci à vous.
Ah bye,
merci
Sarah.
À vous. Allez, go Europe. Exactement, go Europe et tu vas voir Best Page. Et c'est pas si dur que ça, paraît-il. Merci la Dream Team. On se retrouve pour le 51e numéro de la saison qui va sortir lundi prochain, le 8 septembre. L'Insta, d'ici là, du Practice RMC pour tout savoir sur notre émission. Bon golf à tous. On vous embrasse. Salut.
Le Practice RMC.